Chapitre 19. Chloé. 16 juillet 2018. Hier soir, sur ce banc de Central Park, Luther m'a mis dans les mains une partie de l'histoire de ma famille qui m'était inconnue. Les deux feuillets extirpés de son improbable banane et une longue explication de texte de sa part m'ont aidé à reconstituer ce que Gina et sa famille ont vécu ici, en 1938. Depuis quelques années, la Fondation Ellis Island pour la mémoire de l'immigration a numérisé et rendu accessible au public l'ensemble des registres d'arrivée d'immigrants. Les nouveaux venus, habituellement assistés d'un interprète, devaient répondre aux 29 questions des inspecteurs de l'immigration. Certaines classiques et attendues, comme le nom, la nationalité, l'âge, le sexe, la profession, le dernier lieu de résidence. D'autres moins évidentes. Avez-vous déjà été emprisonné? Interné pour troubles mentaux? Êtes-vous en possession de $50? Qui a payé votre traversée? Détenez-vous un billet pour votre destination finale? Êtes-vous anarchiste? Polygame? Arrivez-vous avec une promesse de travail? Sur les registres figurent également les problèmes de santé, handicap ou infirmité, déclarés par l'immigrant ou décelés lors de l'examen médical. Chaque page de ces immenses cahiers de l'immigration comprend une trentaine de noms. Sur l'une d'elles, désormais en ma possession grâce à Luther, on voit clairement les quatre lignes correspondant à Gina, son père Angelo, sa mère Pasqualina et son frère Francesco. L'ensemble est dactylographié, mais dans les marges, à côté de certaines lignes, il y a des tampons et des annotations manuelles. C'est dans ces marges que s'est jouée l'histoire de ma famille. Il y a quelques jours, je ne savais même pas que Gina et ses parents étaient passés par New York. Je sais maintenant que leur séjour s'est terminé là où il avait commencé, à Ellis Island. En face des noms de la mère et du frère de Gina, les coups de tampon sont aussi secs, aussi terribles que ce qu'ils annoncent. In hospital, puis died in hospital. Mon arrière-grand-mère et le frère de Gina sont morts à l'hôpital d'Ellis Island une semaine après leur arrivée. Cela, Gina ne m'en a jamais parlé, mais elle l'a révélé à Luther lorsqu'elle lui a confié ses missions. Ce que Gina a expliqué à Luther, c'est que lorsque sa mère a accouché, dans des conditions épouvantables, elle venait de déclarer la varicelle. À l'arrivée sur Ellis Island, Pasqualina et le petit Francesco étaient très faibles et couverts de boutons. Tous deux ont été conduits à l'hôpital de Lille dès leur arrivée et mis à l'isolement. Une semaine plus tard, une infirmière est venue annoncer à Gina leur décès. La varicelle, dans leur état de faiblesse extrême, avait provoqué des complications. Des lésions pulmonaires irréversibles. C'était tout. Gina a également expliqué à Luther, de manière elliptique, avoir été séparée des siens au moment de l'arrivée à Ellis Island. Traditionnellement, les hommes étaient envoyés d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Mais puisque sa mère et son frère étaient malades, Gina s'est retrouvée seule. Elle a été placée avec d'autres enfants dans de grands dortoirs. J'imagine la détresse de la petite fille de 5 ans qu'elle était, séparée de sa famille dans un nouveau pays dont elle ne parle pas la langue, et mon cœur se serre. C'est inconcevable, abominable. Concernant Angelo, le père de Gina, il y a 3 annotations. 2 mentions énigmatiques. Special Inquiry et LPC. Et une autre malheureusement limpide. Un simple tampon si lourd de sens, également apposé à côté du nom de Gina. Deported. Retour à l'expéditeur. Renvoyé à Marseille, leur port de départ. Sur Ellis Island, Angelo a perdu sa femme, son fils et tout espoir. Comment se représenter ce qu'il a pu ressentir? Je devine sa culpabilité lancinante, cette impression que sans ce maudit voyage dans lequel il les avait entraînés, les siens seraient sans doute encore en vie. Je comprends alors l'homme taiseux, d'une tristesse incommensurable, décrit par Gina. Je comprends le voile de silence, d'ombre et de douleur, jeté sur cet épisode de leur vie. Je comprends l'impossibilité de rouvrir les plaies jusque-là. Et je comprends le besoin viscéral ressenti par Gina, au crépuscule de sa vie, de retrouver la trace de sa mère et de son frère. De leur dire au revoir, pour de bon. Et c'est bien là qu'est le problème. Comment se recueillir si l'on ne trouve pas les tombes? Ou plutôt, si l'on ne trouve pas la tombe? Plus de 3500 personnes sont décédées sur Ellis Island au cours de ses 60 années de service. La plupart du temps, ces morts qui n'avaient ni argent ni famille aux États-Unis étaient enterrés dans les fosses communes de cimetières de périphérie. Mount Olivet Cemetery, Heart Island, ou encore l'immense Calvary Cemetery dans le Queens. C'est dans ce dernier que Luther a identifié l'emplacement de la sépulture de Pasqualina. Il n'y a en revanche aucune trace du petit Francesco. Luther aurait très bien pu se contenter du document que je tiens entre les mains, ce feuillet mentionnant l'emplacement où repose Pasqualina. Il aurait pu expliquer à Gina que, vu l'afflux d'immigrants, le nombre de décès à traiter, le chargé de registre s'est sûrement trompé. Ou bien que Francesco étant un tout petit bébé, il aura sans doute été placé dans le même cercueil que sa mère, par simple souci d'économie. Mais son intégrité intellectuelle et son intérêt croissant pour toute cette histoire le poussent à approfondir les investigations. J'ai rendez-vous avec Luther à 20h à la sortie du métro High Street pour dîner à Brooklyn. Au programme, passer en revue les éléments en notre possession et lister les questions restantes avant de nous rendre sur Ellis Island demain. Olga a proposé d'aller squatter la guest house de Gina et celle-ci a accepté. Je ne suis pas mécontente de me retrouver seule à l'hôtel après cette journée riche en révélations et émotions diverses. Je n'ai qu'une petite heure pour prendre une douche, puis me préparer. Je saisis un jean brut et un débardeur uni. Très américain, très simple, pas du tout dans la séduction. Parfait. Je ne veux surtout pas envoyer de signaux contraires à mes intentions. Je m'apprête à enfiler mon jean quand je me rends compte que je n'ai aucune idée du lieu du dîner. Peut-être faut-il quelque chose d'un peu plus chic? J'opte pour des sandales en cuir et une jupe longue fluide, un peu froissée par le voyage, mais ça lui donne un côté vintage, ça fera l'affaire. Je conserve le débardeur poudré, j'ajoute des boucles d'oreilles dorées et un collier fantasy, puis j'appose sur mes lèvres un rouge à lèvres bien trop rouge que j'ôte immédiatement et remplace par un gloss. Je m'aperçois que je passe plus de temps à me pomponner que je ne l'imaginais, et que c'est sans doute la première fois depuis plusieurs mois que j'estime le résultat acceptable. Ce n'est pas pour Luther que je fais tout ça, c'est pour moi. C'est en tout cas ce que je me raconte. Car lorsque je repense au contact de sa peau, je sens des picotements me parcourir le corps. Je secoue la tête, dépose quelques gouttes de parfum dans le creux de mes poignets, puis je file en taxi vers Brooklyn. Voilà, c'est malin. Avec tout ça, je suis bien trop en retard pour y aller en métro. Le trajet est féerique, comme tous les trajets dans New York. Je crois que j'aime beaucoup cette ville. Sa démesure, sa capacité à recouvrir d'un baume étincelant mes pensées les plus sombres. Sur le pont de Brooklyn, je mitraille tout ce qui tombe sous mon objectif. Le chauffeur de taxi a l'habitude des touristes. Il ralentit afin que mes photos soient plus nettes. Peine perdue. C'est beau, mais c'est flou. Lorsque le taxi me dépose devant la station, Luther est déjà là. Il ne se prive pas pour me charrier sur mon arrivée en voiture à un rendez-vous donné devant une bouche de métro. Je fais des efforts pour ne pas le parcourir des yeux, mais je remarque qu'il s'est changé lui aussi depuis tout à l'heure. Il a toujours son éternelle banane autour de la taille, bien sûr, et sur l'épaule un sac de sport. Mais son look n'a plus rien à voir avec le casual un peu désuet de ses tenues précédentes. Il porte des baskets blanches, un jean brut retroussé au niveau des chevilles, et un polo jaune laissant deviner une musculature que je ne soupçonnais pas derrière ses chemises mal coupées. Le contraste entre ce polo solaire et sa peau noire est saisissant. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'il se présente à moi tel qu'il est vraiment, pour la première fois. Je me rends compte que j'aime beaucoup. Punaise, mais qu'est-ce que je dis? Calme-toi, Chloé. Ça n'est pas un rendez-vous amoureux. Tu n'es pas là pour ça, et lui non plus. Respire. Je n'ai pas le temps de respirer. Sous prétexte qu'il est américain et qu'aux USA le vouvoiement n'existe pas, il me propose de passer au tu. Sous prétexte de me faire découvrir un endroit merveilleux, il me demande de fermer les yeux et de me laisser guider. Il saisit ma paume et commence à avancer. Ce contact me gêne au début, puis je m'habitue à la chaleur de sa main. Je pousse quelques petits cris idiots lorsque mon pied heurte un trottoir. Ça le fait bien marrer. Puis il déclare que nous sommes arrivés, mais me demande de garder les yeux clos. J'entends un vrombissement lointain de voiture, mais aussi le clapotis de l'eau, des discussions et des rires. Au bout de quelques instants, il me lance. « Ouvre les yeux, Chloé !» Je m'exécute. La vue étourdissante me bouleverse. L'image est fantastique. La skyline de Manhattan se détache sur le ciel rougeoyant. Au premier plan, tout proche, les piliers du pont de Brooklyn s'enfonçant dans les eaux miroitantes de l'East River. Je prends le temps de savourer, puis je me retourne. Luther a étalé dans l'herbe un plaid bariolé sur lequel il a déposé quelques bières, une bouteille de vin californien et deux assiettes en carton contenant des lobster rolls. Ses petits pains briochés garnis de homards frais, céleri, capre et mayonnaise maison. « Un must-eat typique de la côte Est », m'explique-t-il. Je suis émue qu'il ait organisé tout ça. L'endroit est vraiment magique. Merci Luther, c'est sublime. En revanche, je crois que je suis clairement overdressed pour un pique-nique. Tu es parfaite. Il se rend compte que cette assertion si spontanée va sans doute un peu plus loin que sa pensée, alors il sourit et se reprend. Pardon, je parle de ta tenue, pas de toi. Enfin, je ne veux pas dire que tu n'es pas parfaite. Je veux juste dire que ta tenue n'a pas d'importance. Même si elle est très bien, hein. Bon, ok, j'aggrave mon cas. Il sourit, me propose une bière. Nous sommes loin d'être seuls dans le Brooklyn Bridge Park, mais je ne ressens pas l'agitation. Le coucher de soleil se mêle à la voix de Luther, à la simplicité de nos silences. Et je me sens bien. J'ai l'impression que je pourrais rester ici, à New York. Ma famille a bien essayé de venir s'installer dans cette ville il y a 60 ans. Pourrais-je continuer leur histoire? Achever ce qui a été commencé? Et en profiter pour recommencer à vivre? Remettre les compteurs à zéro? Qu'est-ce qui m'en empêche après tout? Tu sais bien ce qui t'en empêche. Je pense à Gina, bien sûr. J'ai vécu à des milliers de kilomètres d'elle pendant si longtemps. Je la veux près de moi désormais. Je le sais, j'en suis certaine. Je veux qu'elle me raconte tout de sa vie. Je ne veux pas me retourner dans quelques années en me disant que j'aurais dû passer plus de moments avec elle. Je veux le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et puis je pense à l'échéance du 2 août, à cet enfant qui attend que sa mère prenne une décision pour commencer à vivre. Et soudain, je me vois telle que je suis. Un monstre froid, sans cœur. Une vague de mélancolie brute, matinée de honte, m'envahit instantanément. Comment Luther réagirait-il s'il savait ce que j'ai fait? Il serait horrifié. Il ne voudrait plus rien avoir à faire avec moi. Il aurait raison. Je secoue la tête, bois une gorgée de bière, mais c'est trop tard. Le malaise est là. Je n'ai pas le droit d'être ici, pas le droit de m'amuser. Je n'ai pas le droit de me sentir bien. Alors je casse l'ambiance, volontairement. Je lui lance sur un ton sévère qu'il est sans doute temps de parler de ce pourquoi il est payé, ce pourquoi nous sommes là. Je dois lui paraître complètement barge avec mes sautes d'humeur et mon attitude déroutante, délaissant en quelques secondes le badinage pour la plus grande froideur. Luther passe outre mon attitude qu'il ne relève même pas. Peut-être est-il un peu maso, au fond. Il est en tout cas toujours aussi exalté lorsqu'il évoque l'enquête. Chloé, ta grand-mère a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a intriguée. Elle a parlé de son tatouage comme d'un héritage familial. Puis elle a mentionné avoir été la première à stopper cette tradition, puisque ni ton père ni toi n'avez été tatoué. C'est là que tu lui as demandé si son père avait eu le temps de tatouer son petit frère? Exact. Elle a acquiescé, tout en ajoutant que son père savait que le petit se retrouverait dans un contexte terrible, entouré de milliers d'anonymes, que jamais il n'aurait pris le risque de le perdre. Quelle ironie quand on connaît la suite de l'histoire. Je ne vois pas bien où Luther veut en venir, mais il s'anime, une flamme nouvelle dans le regard. Il sourit. On dirait un enfant, tout excité par une découverte extraordinaire. Je suis suspendue à ses lèvres. Je l'encourage à continuer. Gina a accepté que je photographie son tatouage. J'ai pris la liberté de retravailler un peu l'image quand vous êtes parties toutes les trois tout à l'heure. Le tatouage est un peu effacé. Ses traits sont estompés. J'ai légèrement renforcé le noir et puis j'ai lancé une recherche. Je ne suis pas sûre de comprendre. De quoi parle-t-il? C'est un nouvel outil accessible à tous. Une appli de reconnaissance d'image. Tu fais glisser une photo dans la case prévue et hop, Google se charge de te trouver des images similaires à celles que tu viens de poster. Les gens s'en servent pour identifier un lieu ou une personne. Je sais, ça fait peur. Ça signifie qu'avec une simple photo de toi, on peut retrouver ton profil Facebook, LinkedIn, donc ton identité. Il sort son smartphone et se met à balayer ses photos. Puis il me tend l'appareil. Chloé, je n'ai pas trouvé Francesco, mais j'ai trouvé ça. J'observe la photo, puis Luther. Je secoue la tête, incrédule. Ce que j'ai sous les yeux est incompréhensible. Sur l'écran lumineux, une plaque, visiblement récente, visiblement vissée à un banc de Central Park. Sur cette plaque, ce motif que je reconnaîtrai entre mille, le tatouage de ma grand-mère. Et juste en dessous, une simple adresse mail. LizzyProject@lizzy.com.